enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ensemble, Exode chapitre 17, versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim, alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Un court extrait aussi de Josué chapitre 1. On est dans une phase, le contexte s'établit dans une phase de conquête de Canaan. Israël est parti d'Égypte, ils sont devant Canaan, avec Josué, là, avec Moïse, ils sont encore dans le désert et une première bataille s'annonce. Mais dans Josué chapitre 1, je voudrais relever un ou deux versets. Josué est maintenant seul à la tête du peuple israélien. Moïse vient de mourir et voilà ce que Dieu lui dit au verset 5. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans des entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Autrement dit, si je paraphrasais un petit peu les propos de Dieu à Josué, il lui dit: où que tu ailles, je te donnerai la victoire. Je vais être avec toi comme j'étais avec Moïse et je te donnerai la victoire. Mais prépare-toi cependant à rencontrer des problèmes qui risquent de te décourager. Mais sache que, quelles que soient les difficultés, ne baisse jamais les bras. Tant que tu garderas les bras élevés, comme Moïse, à ce moment-là, tu gagneras du terrain et tu verras mes promesses s'accomplir dans ta vie. Dieu parle. Il a déjà parlé et je voudrais intégrer mon message dans ce qui a déjà été dit. Pensez à la sainteté de Moïse. Pensez à la vie que cet homme a dû mener. Pendant un temps, pendant 40 ans, élevé dans un palais royal en Égypte, confronté à la philosophie du monde, assis au pied des plus grands maîtres universitaires de l'époque. Et Dieu va le prendre et pendant 40 ans mettre dans un désert et le rééduquer, et apprendre à marcher par la foi. Et c'est alors qu'il l'envoie devant son peuple pour le sortir d'Égypte et l'amener en Canaan. Et il lui dira: c'est à toi de mettre ce peuple en possession de mon pays. Vas-y, mène-le. Et on se dit: ça y est, c'est facile, tout va couler comme un long fleuve tranquille. Bien-aimé, des fois, pour voir le pays Canaan devenir réalité dans nos vies, pour voir les promesses de Dieu que Dieu nous a faites se réaliser dans nos vies, des fois nous passerons des batailles, et des batailles féroces. Mon message pour toi, c'est: ne baisse pas les bras. Dieu a dit à Josué: je te l'ordonne, sois fort et courageux. Je serai avec toi, mais toi, sois fort et courageux. Lorsque Dieu a dit quelque chose, il a la puissance de l'accomplir. Quand Dieu t'a fait une promesse, il le fera dans la mesure où toi, tu t'accroches à ses promesses, tu marches droit et tu tiens le bout, jusqu'à un moment donné, tu vois la promesse se réaliser. Mon message partage en deux points. J'aimerais voir avec vous plusieurs passages ou situations où des hommes et des femmes comme vous et moi dans la Bible auraient eu tendance à baisser les bras. Et enfin, deuxième point, comment tenir le choc face à l'envie de céder à la pression. Premier point d'abord, plus une situation où notre nature ou le diable nous pousse à baisser les bras. Première situation, comme celle d'Amalek à Réphidim. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ne baisse pas les bras quand l'ennemi t'attaque par derrière. Éphésiens 6, 14 nous parle que nous avons un ennemi qui s'appelle le diable et il est rusé. J'aimerais vous dire que Amalek, vous le direz dans Deutéronome 25, a attaqué Israël par derrière. Israël était un peuple d'esclaves qui sortait à peine d'Égypte. Il n'y avait aucune armée de formée. Mais Amalek était un peuple de pillards. Et ils sont venus par derrière. Et ils ont attaqué sournoisement Israël pour lui passer dessus, lui passer au fil de l'épée, prendre son butin et partir. Lorsque le diable des fois vient contre nos vies, il se peut qu'il vienne par derrière. Le diable n'est jamais fair play. Chez lui, tous les coups sont permis, y compris les plus vils. Et parfois, il se plaît à enfoncer le couteau dans le dos. Prépare-toi à ce genre de situation. Mais je veux te dire à ce moment-là, comme Moïse l'a fait, ne baisse pas les bras. Lorsque des hommes et des femmes autour de toi, sans scrupule, te lâchent, je veux te dire, ne baisse pas les bras. Moïse n'a pas baissé les bras, il les a gardés élevés, et parce qu'il les a gardés élevés, il a pu vaincre la situation. Amen. Garde les bras élevés, fortifie-toi et prends courage. Il savait que Dieu était avec lui alors qu'il pouvait être contre lui. Deuxième point, ne baisse pas les bras quand tu te retrouves seul dans les difficultés malgré l'obéissance. Il se peut que tu aies commencé à marcher avec Dieu, à marcher droit. Et tu as commencé à avancer, à prendre du terrain. Et tu te dis, maintenant Dieu sera avec moi, rien ne m'arrivera. J'aimerais te dire, pas forcément. Il y a des moments donnés où même quand on obéit, eh bien le diable vient et attaque sournoisement. Dans 1 Samuel 30, versets 6 à 8, David obéissait correctement à Dieu. Et voilà qu'à un moment donné, alors qu'il était parti en guerre, les gens restés à la maison, les femmes, les enfants, avaient été pris en butin, en otage, par une peuplade ennemie. Et quand les hommes de guerre rentrent avec David, à un moment donné, il n'y a plus rien dans le camp. Fini, plus rien. Et tout le monde pleure. Et tout le monde a pleuré. Et on les comprend fort bien. Mais voilà qu'en plus, à un moment donné, les hommes de David se retournent contre lui et lui disent, c'est toi qui nous as menés ici. Et c'est à cause de toi maintenant que nos femmes et nos gamins sont perdus. Et David se retrouvait tout à coup tout seul, complètement esselé, dans une situation qui risquait fort de tourner au drame pour sa propre vie. Mais dans 1 Samuel 30, il est marqué la chose suivante. 1 Samuel 30, versets 6 à 8. Tout d'abord, on apprend que David fut dans une grande angoisse, car le peuple, ses hommes de guerre, pas des enfants de cœur, parlaient de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. David a connu l'angoisse. Maintenant, voilà comment il va gérer la situation. Puisse cela être pour vous comme pour moi, un verset souligné d'un trait rouge dans votre Bible. Il est dit là, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il n'est pas dit qu'il avait rencontré un prophète qui l'a encouragé. Il n'est pas dit non plus qu'il avait une grande église qui priait pour lui. Il n'est pas dit non plus qu'il avait à portée de main une Bible qui lui montrait X exemples de ce genre-là. Sa seule Bible se résumait au texte de loi. Mais bien aimé, David connaissait Dieu. Et ce Dieu qu'il avait sorti maintes et maintes fois d'affaire, allait encore cette fois-ci le sortir d'affaire. Et il s'est appuyé sur lui, et il a repris courage, et après il est reparti à la guerre, et il a ramené tout le monde à la maison. Amen. J'aimerais te dire, ne baisse pas les bras quand tu te retrouves seul dans les difficultés malgré l'obéissance. Reprends courage, appuie-toi sur lui. L'apôtre Paul dira autrement. Il dira, tenez ferme dans le jour mauvais après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Dieu dira à Josué, je te l'ordonne, sois fort et courageux. Si le salut est gratuit, et il est gratuit, il a coûté cher à Dieu, mais pour nous il est gratuit. J'aimerais vous dire que l'accomplissement des promesses de Dieu se fera au prix de bataille. Et si nous partons avec l'idée de vivre de l'évangile des petits pains, bien-aimés, nous ne verrons pas les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Petit pain pour moi c'est Seigneur donne, et puis qu'il donne ou qu'il ne donne pas, peu importe, mais Seigneur donne. Bien-aimés, à un moment donné, nous devenons acteurs avec Dieu, nous devenons ouvriers avec Dieu, et pour qu'on voit les promesses de Dieu se réaliser, il y a des batailles à mener. Ne baisse pas les bras, Dieu est toujours vivant, capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dans Ésaïe 43, verset 18, il est dit, Dieu dit, « Je ferai un chemin dans le désert, et j'amènerai des fleuves dans les lieux arides. » Autrement dit, les choses impossibles avec Dieu deviennent possibles. Troisième situation, ne baisse pas les bras quand la bataille tire en longueur. Nous avons lu ensemble dans Exode 17 que Moïse était sur la montagne avec Aaron et Hur. Et pendant un temps, apparemment, il était seul à lever les bras. Et tout le monde le voyait. Pendant qu'il levait les bras vers le ciel, tenant le bâton de Dieu dans sa main, Josué gagnait du terrain. Quand il baissait les mains, Josué perdait du terrain. Il y a une interférence entre la prière et l'action sur le terrain. Les deux vont de pair, il faut agir sur le terrain et il faut prier. Mais bien aimé, à un moment donné, si la prière faiblit, lorsque les bras baissent dans la prière et la louange et l'adoration, à un moment donné, vous risquez de perdre aussi du terrain. Et Aaron et Hur, ayant vu cela, ils sont venus soutenir Moïse. Mais avant de dire cela, il est marqué que les mains de Moïse étant fatiguées. Les mains de Moïse étant fatiguées. La bataille a duré plus longtemps que prévu. Et la tendance naturelle que nous avons quand nous commençons à fatiguer, c'est de nous laisser aller à nos faiblesses. On retourne à nos faiblesses. Et on y va. D'abord petit à petit, et puis un jour on se dit, tant pis pour temps, tant perdu pour perdu, on y va. Je me te dis, frère, sœur, es-tu dans une bataille qui traîne en longueur? Je me te dis, ne baisse pas les bras. Trouve-toi un Aaron, trouve-toi un Hur, mettez-vous ensemble, entoure-toi de gens compétents dans la prière, mais ne baisse pas les bras. Parce que la victoire t'appartient dans la mesure où tu continues à lever les bras vers le ciel et à oser croire l'impossible que Dieu peut faire. Ne baisse pas les bras quand la bataille tire en longueur. Laissez-moi vous donner un exemple d'homme qui n'a jamais baissé les bras. Un homme d'un courage exceptionnel, un homme d'une trempe exceptionnelle. Je pense à Caleb, le compagnon d'espionnage de Josué. À l'époque de Moïse, ils étaient partis dans le territoire de Canaan faire une inspection. Ils sont revenus avec des rapports absolument élogieux, des grappes énormes, une terre fertile, mais aussi des géants, des grosses murailles. 10 espions ont dit, c'est super beau, mais on ne va jamais y arriver. 2 ont dit, Josué et Caleb, ils ont dit, un super pays, des super ennemis, mais on va les avoir, parce que Dieu est avec nous. 45 ans plus tard, Caleb a maintenant 85 ans, et Dieu lui avait promis un territoire particulier, avec une montagne dedans. Écoutez voir ce qu'il dit, ami Caleb. 45 ans passés, Caleb a passé 40 ans dans le désert à cause de l'incrédulité du peuple. Et puis ensuite, 5 ans de bataille, sans jamais encore voir son terrain lui appartenir. Mais voilà ce qu'il va dire dans Josué chapitre 14, verset 11. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Et il va dire à Josué, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel m'a parlé. Il n'a pas dit, Josué, tu vois, j'ai 85 ans maintenant, je suis fatigué. J'ai les cheveux gris, des petits-enfants. Non, Caleb n'avait pas encore vu la promesse de Dieu devenir réalité dans sa vie. Et il va dire maintenant, je veux la voir en dépit de tout. Malgré mes 85 ans, je veux voir Dieu me donner ce qu'il m'a promis. Amen. La bataille a été longue, mais la clé chez Caleb, c'est sa foi certainement. sa persévérance, sa sainteté, mais aussi le fait qu'il n'a jamais baissé les bras. Quatrième situation, ne baisse pas les bras quand les promesses de Dieu tardent à s'accomplir. Abraham et Sarah avaient reçu une promesse précise, vous aurez une descendance. Pendant 14 ans, ils ont entendu. La brave Sarah était déjà pas mal âgée, son mari aussi d'ailleurs. Elle avait maintenant 79 ans, pas d'enfant. Et à un moment donné, Sarah fléchit. Et elle pense à une coutume de l'époque, donner sa servante à son mari pour qu'elle enfante un fils à sa place. Et Abraham va céder aussi. Il aurait pu dire non, il aurait pu dire stop. Chérie, Dieu a dit, il le fera. Mais il a cédé aussi, il a fléchi aussi. Ils ont fait du bricolage spirituel et est né Ismaël. Oui, Dieu a aimé Ismaël aussi, tout à fait. Mais cependant, il sera pour Sarah et pour Abraham sujet de difficulté. Je me dis, frères et sœurs, à chaque fois que nous baissons les bras, quand la promesse que Dieu nous a faite tarde à s'accomplir, nous courons le risque de prendre des raccourcis. Et le raccourci ne paye jamais. Il était dit, il n'y a pas de raccourci pour la puissance de Dieu. Ça passe par une sanctification, par une vie qui reprend le chemin étroit, etc., etc. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, lorsque la promesse tarde à venir, tiens ferme comme Joseph. Joseph a attendu pratiquement 17 ans avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir devant ses yeux. Mais il a tenu le choc. Il a tenu le choc face à l'amertume contre ses frères. Il a tenu le choc face à cette femme qui a voulu le faire chuter. Il a tenu le choc face au silence de Dieu. Mais à un moment donné, d'un jour à l'autre, il est passé de la prison à la gloire, des ténèbres à la lumière. Et Dieu a amené à la réalisation les promesses faites des années auparavant. Amen. Ne baisse pas les bras quand la promesse de Dieu tarde à venir. Et généralement, quand ça tarde à venir, on a tendance aussi à désespérer. Bien-aimé, je voudrais parler à ceux peut-être qui sont désespérés, qui se disent, mais Dieu m'a oublié. Dieu, c'est beau ce que ça me raconte, c'est super, en Suisse, en Allemagne, partout ça se passe, c'est génial. Mais moi je suis malade. Malade de ceci, mon fils est malade. Mon enfant tourne au vinaigre. Mon conjoint a mal, etc., etc., etc. Laissez-moi vous encourager par un texte. Je voudrais le lire devant vous. Nous allons prendre ensemble Lamentations 3. Un homme de Dieu remarquable, Jérémie. Toute sa vie, il a prophétisé et tout ce qu'il a prophétisé était du malheur. Et tout le monde l'a haï. On a fait de lui la risée du peuple. On a fait des chansons à son sujet. Cet homme a vécu une vie dramatique. Et en même temps, il va être, à un moment donné, au fond d'une fosse personnelle. Il est fini physiquement au fond d'une fosse. La boue lui atteint jusqu'au niveau de la taille ou de la poitrine. Et apparemment, tout le monde l'a oublié. Et voilà ce qu'il va dire. Et voilà comment il va s'en sortir. Parce que la bataille commence là-dedans, dans ma tête. Il dit dans Lamentations 3, verset 1, « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, en parlant de Dieu, il dit, il tourne et retourne sa main tout le jour. » Et puis il appuie la pensée. « Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. » Dieu m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. C'est un croyant qui parle, un prophète. Il dit, il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc. Il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois et je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume et enivré d'absinthe. Et pour appuyer encore davantage, il dit, il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Voilà un triste chrétien. Et mes amis, il avait de bonnes raisons d'être triste. Maintenant, voilà comment il va gérer ce problème. Et voilà ce qu'il va dire. Quand je pense à ma misère et à ma détresse, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Autrement dit, je suis dépressif. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Amen! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui, en dépit de tout ce que je vois, que je vis, que je sens. J'espère en toi, Seigneur, et je continue à espérer en toi et à compter sur toi parce que tu es fidèle. Amen. Mon frère, ma sœur, quand tu es désespéré, eh bien, j'aimerais te dire, rappelle-toi ce verset. Rappelle-toi Abraham, rappelle-toi Jésus devant le tombeau de Lazare, face à une femme désespérée qui pleurait son frère Lazare mort. Il va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Autrement dit, espère en moi. Crois en moi et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ne baisse jamais les bras. Enfin, dernière situation, ne baisse pas les bras quand tu as péché. Des fois, on a beau être là dans la foule et chanter les Alléluia, mais des fois, la conscience parle plus fort que l'Alléluia. Elle nous dit, t'es allé trop loin. Dieu ne pourra pas te pardonner. Elle te dit, au masculin comme au féminin, je me sens trop sale. J'ai honte de venir à l'église. J'ai de la peine à prier. Quand j'élève ma voix vers Dieu, je sens ce poids du péché. Cette tâche indélébile qui ne partira pas au moyen de homo ou d'âche. Cette tâche intérieure qui est là et qui souille, et on se sait sale. J'aimerais vous dire, c'est vrai que le péché a des conséquences dramatiques pour nos vies. Et quelque part, on paye toujours cash. À commencer par la culpabilité personnelle. Et puis des fois, ça continue par des ruptures de relations. On a trompé, on a fait mal et on sait qu'on l'a fait. Il y en a beau s'en défendre, beau justifier qu'on sait qu'on a fait. Et parfois, ça va tellement loin qu'on a du mal à croire qu'on puisse revenir. Mais j'ai pour toi une bonne nouvelle. Dieu t'attend ici. Il a été parlé de se repentir. Je voudrais terminer par là. J'aimerais te dire, ne baisse pas les bras quand tu as péché pour deux bonnes raisons. La première raison, c'est face à des hommes comme David, Pierre ou la femme adultère, toujours à nouveau, Dieu a envoyé un message de miséricorde. À un moment donné, David va faire des choses absolument terribles, prendre la femme d'un autre et tuer son mari. Pour un homme de Dieu, attendez, voilà, ce n'est pas juste un vil païen, c'est un homme de Dieu, il connaissait la loi de Dieu, voilà ce qu'il a fait. Mais alors qu'il est repris par Nathan le prophète, que Dieu le reprend sévèrement, et lui annonce qu'il y aura des conséquences à son péché. Voilà ce que David va faire. Il va jeûner pour l'enfant qui va naître et dont Dieu a dit qu'il va mourir. Et il va quand même prier. Et il va prier pendant un bon moment. Et dans 2 Samuel 12, verset 13, on l'interroge. Pourquoi il a prié? Pourquoi il a osé prier? Et voilà ce que David dit à un moment donné. Il va dire la chose suivante. 2 Samuel 12, verset 22. On lui demande des comptes pourquoi il a jeûné et prié. Il va dire, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais car je disais. Voilà ce qu'il s'est dit. Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je encore? Mais à un moment donné, il a quand même continué à oser croire l'impossible, à oser croire, à espérer que Dieu va quand même peut-être faire quelque chose. Dans ce cas précis, rien ne s'est fait. Mais souvenez-vous de Manassé, le roi Manassé, un mauvais roi d'Israël, un très mauvais roi. Il est allé tellement loin dans l'idolâtrie qu'il a même passé son propre fils au travers du feu. Il l'a fait tuer son propre fils aîné pour l'offrir à une idole. Et Dieu va l'envoyer en Babylonie. Il sera mis en prison, les fers aux pieds. Et là, il va profondément s'humilier. Cet homme qui a fait des choses abominables va profondément s'humilier. Et Dieu va voir cet homme et son humiliation et va le ramener dans son pays, va le libérer, le ramener au pays et le rétablir roi. On a du mal à croire, mais c'est quand même comme ça. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, ne baisse pas les bras. Pierre le renégat, il a quand même renié Jésus. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Il a renié Jésus. Mais quand Jésus va apparaître 10 jours plus tard, après qu'il eut pleuré amèrement sur son péché, après qu'il ait passé une nuit dans le désespoir, à un moment donné, il va tellement désespéré qu'il va dire, « Bon, moi, je sais faire quoi? Je sais pécher. Allons pécher. » Pour moi, le ministère, c'est foutu, c'est terminé. Mais quand il voit Jésus, il sait que Jésus est venu aussi pour lui, pour le restaurer. Il plonge le premier, il va retrouver Jésus. Autrement dit, eh bien, Pierre n'a pas baissé les bras dans l'espérance qu'il avait que Dieu puisse encore, une fois encore, lui accorder son pardon. Mais deuxièmement, la seconde raison et la plus importante des raisons, c'est la réaction de Dieu face à l'homme. Oui, Dieu désapprouve les actes mauvais que nous faisons. Mais j'aimerais vous dire que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Michée 7, 18, il est dit, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » À ce pardon que nous ne méritions pas et que nous ne méritons toujours pas. Et il nous invite nous-mêmes à faire de même. Michée 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Quand je lis la Bible, quand je lis l'histoire de l'humanité, je me dis, mais Seigneur, comment se fait-il que tu ne te sois pas lassé de l'être humain? C'est incroyable, génération après génération après génération, depuis des millénaires, on recommence les mêmes bêtises. On a l'impression qu'une génération n'arrive pas à apprendre de l'autre des leçons. C'est fou, mais c'est fou ça. Et je me dis des fois, mais comment fais-tu Seigneur pour ne pas te lasser de l'humain en général? Mais aussi des David, des Pierre, ou des femmes adultères, ou de moi-même. Seigneur, des fois, je désespère de moi-même. Je te dis la chose suivante, repends-toi. Reprends-toi, reviens sur le chemin de la vie. Il y a de l'espoir pour toi aussi. Pour toi aussi, il y a de l'espoir. Le fils prodigue, à un moment donné, a dû croire que le père avait en gros quelque part un soupçon d'amour pour lui. Et ça l'a fait se lever et faire le chemin inverse. Et il est revenu à la maison. Oh, humblement, il est revenu profil bas. Mais il est revenu. Il n'a pas baissé les bras dans l'espérance que le père allait peut-être quand même l'embaucher comme simple serviteur. Et j'aimerais dire aussi à ceux qui sont peut-être à côté de celles et ceux qui pêchent. J'aimerais vous dire que des fois, il est bon de ne pas baisser les bras dans la prière et de continuer à prier. Mais des fois aussi, le fait d'ouvrir la main, c'est aussi ne pas baisser les bras. Le Père n'a pas retenu le Fils prodigue. Il l'a laissé aller. Je suis persuadé que le Père a dû parler et parlementer avec ce fils maintes et maintes fois, lui dire, fiston, tu vas te viander là, tu vas te cracher, tu vas au clash, tu vas au mur, arrête, reviens, reprends-toi. Et le fils a insisté, je vais quand même. Parfois, c'est la seule façon d'aider l'autre, d'ouvrir la main, de laisser aller. En fait, de continuer à élever les bras vers le ciel et de le remettre à Dieu. Et Dieu alors peut travailler avec lui. As-tu péché? Es-tu culpabilisé? J'aimerais te dire, c'est très bien ainsi. C'est preuve que ta conscience fonctionne encore. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas arrivé au terme avec toi. Il n'est pas encore désespéré de toi. Il a encore pour toi un avenir et de l'espérance. Dans la mesure où tu oses revenir, où tu oses décider et dire maintenant je fais des choix cohérents avec ma foi, je reprends le chemin étroit, je me repens, je me détourne de mes péchés, j'abandonne mes mauvaises voies et je marche avec mon Dieu. Amen. C'est ça aussi, ne pas baisser les bras. Mon ami, es-tu culpabilisé au point que tu as envie de tout lâcher? Je vais te dire, au contraire, reviens. Il y a là une source d'espérance qui est Dieu lui-même. Il veut te réconcilier avec lui-même et te donner la paix, la joie. Amen. Alors ne baisse jamais les bras. Pourquoi? Parce que le diable sait que lorsque tu le fais, tu rates ta destinée. Tu rates la cible pour laquelle Dieu t'a envoyé comme une flèche dans le monde. Le diable sait cela. Et tout ce qu'il veut, c'est te dévier de ta course. Dieu est le Dieu de toute espérance. Ne baisse pas les bras dans la prière, ni dans la foi, ni dans l'obéissance, parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Le Dieu que nous servons est le Dieu de toute espérance. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.